Maxime Maury, Economica.
Jacques Lavergne.
Bonjour. Bonjour.
Dire la vérité sur la pandémie.
Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Nous nous retrouvons comme rituellement avec Maxime Maury. Alors, vous avez entendu l'annonce de Maxime Maury qui a dit « dire la vérité sur la pandémie » pour changer, puisque d'habitude c'est sur l'économie. Mais aujourd'hui, la pandémie, effectivement, nous en dépendons totalement et sur tous les plans. Citation du jour, la première, la mienne. C'est un économiste, un de vos collègues, Maxime Maury, qui l'a donné. Je vous la cite. Les politiciens sont semblables aux mauvais cavaliers qui sont tellement soucieux de se tenir en selle qu'ils ne se préoccupent plus de la direction qu'ils prennent.
Elle est excellente, mais qui est cet économiste?
Joseph Schumpeter.
Ah, c'est beau, oui, c'est beau. Et c'est très ancien, donc déjà nous étions à l'époque dans cette...
Oui, très ancien, toujours actuel, c'est ça. Mais je suis sûr que vous en avez une, Maxime, aussi.
Oui, moi je voulais illustrer le livre que vous allez présenter tout à l'heure sur ce que nous appelons la dépression cognitive ou l'apocalypse cognitive. L'essentiel est en permanence menacé par l'insignifiant. René Char.
Voilà, bah écoutez, deux citations, Maxime et sa Maxime, et Jacques et sa citation. Réfléchissez, mais elles sont quand même intéressantes, elles illustrent un peu la situation. Alors, nous allons vous parler bien évidemment des perspectives sanitaires et corrélativement des perspectives économiques. Nous allons, si on a du temps sur la fin de l'émission, nous dirons un mot sur la Chine qui est devenue un bulldozer qui va tout écraser sur son passage et qui en tout cas aujourd'hui draine la croissance mondiale. Et puis, nous allons commencer par une brève dont je voulais vous parler. C'est une grande banque mondiale, le HSBC, que vous connaissez certainement, et qui subit actuellement une pression de ses actionnaires qui demandent à ce qu'est aujourd'hui la première banque d'Europe de présenter un plan annuel pour réduire ses financements accordés aux entreprises polluantes. Alors, vous savez que le HSBC est très présent dans tout ce qui est énergie fossile, qu'il a financé à hauteur de sommes assez considérables, 87 milliards de dollars entre 2016 et 2019, les énergies fossiles. Et bien là, il y a un groupe d'actionnaires, et non des moindres, hein, qui représente un poids important. Il y a une association britannique qui s'appelle Share Action, et qui comprend des investisseurs institutionnels, dont Amundi, qui est le gérant français national, pardon, j'ai mon téléphone qui sonne, voilà, c'est les inconvénients, qui est le gérant français de la gestion d'actifs, la banque Fostal Asset Management, Man Group, qui est le plus gros fonds spéculatif du monde, eh bien, ils leur disent, c'est terminé aujourd'hui, il faut que vous vous penchiez. Donc, il y avait plus d'une centaine de ces actionnaires. Il faut que désormais, vous soyez présents sur le court, sur le moyen et long terme pour réduire votre exposition aux actifs des énergies fossiles. Alors, qu'est-ce que fera la HSBC? On ne sait pas, mais c'est un mouvement qui est intéressant, surtout dans l'optique que nous développons dans une émission sœur d'Economica, qui est Résilience, et dont prochainement, nous vous ferons entendre un numéro. Voilà pour ce qui est du HSBC, donc sous la pression, et qui s'inquiète d'ailleurs parce que c'est... Ces actifs risquent d'être dévalorisés brutalement, c'est le problème des banques, et notamment les actifs des compagnies pétrolières, si leur valeur s'effondrait brusquement.
Donc, moi, j'ai une réaction très brève. Ils ont raison parce que demain, on sera capable d'instaurer une taxe carbone sur l'épargne. Vous m'entendez, taxe carbone sur l'épargne. Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez un peu, explique ça très bien. On sera capable de reconstituer ce que finance votre épargne en termes de carbone, d'émissions de carbone, et on sera en mesure de vous taxer, ou de, plutôt de taxer votre épargne en fonction de ça. Voilà, donc ils ont raison d'anticiper.
Enfin, ce n'est pas la banque qui anticipe, mais c'est ses actionnaires. La banque traîne un peu les pieds, mais enfin, sous la pression, peut-être qu'ils vont consentir à se verdir pour être politiquement corrects. Jusqu'où iront-ils ? L'avenir nous le dira. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, cette pandémie qui est dans toutes les têtes et sur toutes les lèvres, eh bien, pour l'introduire, je vous propose de vous lire un propos qui n'est pas ni de Maxime ni de moi-même, mais qui est de Nicolas Bavresse, avocat, essayiste, chroniqueur, notamment au Figaro, et participant à différentes émissions. Nous allons l'écouter et nous rebondirons bien sûr sur ses propos. Donc je cite Nicolas Bavresse. « L'interminable juin 40 de la santé publique française face au Covid-19 se poursuit. Après la pénurie de masques et de tests, l'absence de mesures d'isolement, le fiasco de l'application numérique, notre pays figure dans les tout derniers du monde développé par le nombre de personnes vaccinées, qui se limite à quelques dizaines de milliers, alors que 520 000 doses sont livrées chaque semaine depuis fin décembre. Cette situation est aberrante. Le retard français dans la vaccination accroîtra le nombre de victimes de l'épidémie qui s'élève déjà à plus de 67 000 morts. Il achèvera aussi de ruiner notre économie, qui perd 1 milliard par jour en chute de production et diminution des recettes fiscales du fait des mesures sanitaires et qui ratera le train de la reprise. L'État porte l'entière responsabilité de cette faillite. Elle est politique puisque le gouvernement n'a pas préparé un plan de vaccination destiné à protéger au plus vite la population, mais un plan de communication pour se prémunir des critiques des opposants à la vaccination. Elle est médicale, les multiples erreurs dans le volumineux protocole de vaccination s'ajoutant à l'application absurde à la vaccination des procédures d'examen et de consentement requises pour les interventions chirurgicales lourdes ou les essais de thérapie génique. Elle est opérationnelle et logistique avec la pénurie de supercongélateurs et la paralysie des circuits de distribution. Elle est industrielle puisque notre pays, contrairement aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Allemagne, à la Chine ou à la Russie, ne disposera pas d'un vaccin développé par un opérateur national avant fin 2021. Fermez les guillemets, c'est un avis éclairé, c'est aussi quasiment réquisitoire, mais je pense qu'il me paraît, personnellement, Maxime va nous dire ce qu'il en pense, qu'il me paraît assez objectif face à la situation que nous connaissons aujourd'hui.
Oui, j'apprécie énormément Nicolas Bavresse, que je lis depuis 30 ans, pratiquement toutes les semaines. Et je pense que ce que vous venez de lire est vraiment tout à fait saisissant de vérité. Nous sommes dans la drôle de guerre. Drôle de guerre de Marc Bloch, il cite juin 1940, c'est-à-dire que nous sommes en guerre, d'ailleurs le président de la République l'a dit le 16 mars, mais cette guerre, nous ne la faisons pas au rythme où nous devrions la faire. Nous sommes maintenant dans une course de vitesse entre un virus mutant qui devient de plus en plus virulent, la souche anglaise, la souche africaine, sud-africaine, la souche japonaise, Et nous voyons que ce virus est en train de paralyser complètement l'Irlande, le Royaume-Uni, de les submerger. Et notre procédure de vaccination a beaucoup de mal à décoller. Je vous propose qu'on parle des faits, Jacques. Hein, la question n'est pas d'être d'accord ou pas avec Bavresse. Moi, je suis à 120% d'accord. Alors, voilà les chiffres de la vaccination hier soir. La France avait vacciné 247 000 personnes. L'Espagne, qui est nettement moins peuplée que la France, en avait vacciné 581 000. L'Italie, qui est nettement moins peuplée que la France, en avait vacciné 800 000. L'Allemagne, qui est plus peuplée que la France, en avait vacciné 758 000. Le Royaume-Uni, 2 600 000. Les États-Unis d'Amérique, 10 millions. Israël, 2 millions. Et Israël, à l'heure où nous parlons, a déjà protégé toutes les deux tiers de sa population fragile, c'est-à-dire les plus de 60 ans. Alors moi, je voudrais vous poser une question. Je suis étonné qu'aucun journaliste ni qu'aucun parlementaire ne pose cette question. Est-ce qu'à l'heure où nous parlons, là, aujourd'hui, 15 janvier, il y a un centre de conservation du vaccin par le froid? Nicolas cite les congélateurs qu'on a mis beaucoup de temps à acquérir. Est-ce qu'il existe à Toulouse? Est-ce qu'il existe à Albi? Est-ce qu'il existe à Cahors? Est-ce qu'il existe à Montpellier? Je n'en sais rien.
Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai lu dans Le Canard Enchaîné, puisqu'on lit quand même tous les deux un panel de journaux importants, dans un article assez bien renseigné. Ils disent qu'il y a deux flux de prévus. Une centaine d'hôpitaux équipés de supercongélateurs recevront 25% des vaccins, alors directement livrés par l'usine Pfizer.
Oui, mais quand, à quelle date?
Ah, ça, ce n'est pas précisé, nous ne savons pas. On est quand même beaucoup dans le flou. Et tout le reste va passer par Santé publique France, qui est l'agence sanitaire qui va réceptionner les doses alors, sur 6 plateformes, une qui lui appartient.
6 plateformes, cinq, absolument. Voilà. Oui.
Et 5 sur des dépositaires privés. Et ensuite, ça va être réexpédié via des transporteurs dans les EHPAD, dans les pharmacies ou dans les hôpitaux. Mais c'est un travail que l'agence, qui n'a pas tellement brillé dans les commandes de masques, ne sait pas assurer ou n'a pas l'habitude d'assurer, donc on peut tout craindre.
Alors, la question de la conservation dans les 100 centres est absolument essentielle, parce que nous avons besoin aujourd'hui d'une levée en masse de la vaccination, et l'exemple que je prends, c'est les taxis de la Marne, c'est les soldats de l'an 2, c'est les camions qui montaient vers Verdun en 1916 au rythme de 1 toutes les 5 minutes, et le génie militaire resablait la route en permanence. À partir du moment où les 100 centres seront mis en œuvre, et voyez que vous ne savez pas, vous savez qu'ils doivent être mis en œuvre, et Le Canard ne sait pas non plus. Alors à ce moment-là, il sera possible d'organiser une distribution capillaire du vaccin vers les pharmacies, vers les médecins généralistes, vers les infirmiers libéraux, pour vacciner en masse. Or, là, il y a un retard à l'allumage, et Bavrez le dit très bien, cet éditorial est remarquable, puisqu'en fait, on savait depuis l'été dernier que nous aurions les vaccins au début de 2021. Et pour le moment, ce qui monte en puissance lentement, c'est un système de vaccination que je qualifierais d'artériel, c'est-à-dire on met en place des grosses artères, vous venez de le rappeler, donc des centres de vaccination. On nous dit qu'il y en aura 300 à la fin de la semaine, mais je n'en sais rien. Mais pour que ça marche, il faut aussi qu'il y ait une distribution capillaire. Parce que les Français, pour eux, la santé, c'est le pharmacien, c'est le médecin généraliste, c'est l'infirmier. Et surtout pour les personnes les plus âgées. Donc, vous voyez qu'on a vraiment un retard à l'allumage.
Justement, pour abonder ce que vous dites, je vais vous citer Gilles Bonnefond, qui est du syndicat de pharmaciens UPSO, et je le cite dans le texte, c'est déjà le bordel, sic. Dans le Morbihan, Santé publique France livrera des pharmacies le samedi alors qu'il n'y a personne pour vacciner dans les EHPAD le dimanche. On va perdre 2 jours sur un vaccin qui ne se conserve que 5 jours. Les grossistes répartiteurs qui livrent habituellement les pharmacies n'ont jamais été mis dans la boucle. L'État a préféré se débrouiller tout seul et ça patine. Donc voilà,
bravo,
illustre ce que vous venez de dire.
C'est ce que Valérie Pécresse dit dans Le Figaro d'hier. Vous ne voyez peut-être pas la page.
Moi, je Valérie le vois, Pécresse, nos auditeurs, dit, non, mais moi, je la vois.
Nous sommes prêts à vous aider, nous sommes prêts à aider, laissez-nous faire.
Alors, rappelons que Valérie Pécresse d'ailleurs, est présidente de région.
C'est ce que disent tous les présidents de région.
Oui, alors il faut peut-être, et on le disait hier en préparant cette émission, il faut peut-être aussi faire attention, nous rentrons dans une période un peu spéciale, qui est une période électorale, puisque si les choses vont jusqu'à leur terme, nous devrions voter pour les départementales et les régionales, je crois, aux alentours du mois de juin. Donc ça veut dire que tous ces gens rentrent en campagne et que nous risquons d'assister à une surenchère politique en disant « laissez-nous faire, on le fera mieux que vous ». Bon, ça ne coûte rien puisque de toute façon, ils ne le feront jamais.
Jacques, il ne s'agit pas de remplacer l'État, il s'agit de le compléter. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. L'État a mis en place un système de distribution artérielle, je l'ai qualifié comme ça, avec les grands centres de vaccination. Je ne le critique pas, mais ça ne suffit pas. Et la distribution de proximité ne pourra pas se faire sans les communes et les régions. Et les régions, et les élections, elles n'auront peut-être jamais lieu. Parce que si nous sommes cloués par un virus beaucoup plus contagieux que le virus actuel, et c'est le cas de l'Irlande, regardez ce qui se passe en Irlande. Ils sont cloués. Eh bien, personne n'ira voter parce que les gens ne pourront plus se déplacer. Donc, il faut vraiment prendre de la hauteur de vue sur le sujet. Et Valérie dit, l'État a choisi délibérément de ne pas associer les régions, dont plusieurs sont présidées par des médecins. C'est un immense gâchis. Pourquoi se priver de notre énergie? Je ne comprends pas cette volonté manifeste, mais injustifiée, d'écarter les régions. Et encore une fois, la levée en masse, les taxis de la Marne, les soldats de l'An 2, les camions vers Verdun, ça s'est fait par le rassemblement du peuple français dans son entier. Aujourd'hui, on ne peut pas opposer les régions et l'État, si vous voulez. Mais l'État ne semble pas tendre la main aux régions et aux communes. Voilà, donc,
tout ça est quand même totalement tubuesque, convenez-en, vous l'avez dit tout à l'heure, nous savions quand les vaccins arriveraient et nous savions qu'il allait falloir vacciner. Or, aujourd'hui, on se rend compte que personne n'a pensé à rien. Enfin, c'est une faute politique majeure. En d'autres temps, des têtes seraient tombées. Là, tout le monde, on tient des propos plus ou moins lénifiants. Et tout le monde a l'air de trouver cette situation chaotique, certes, mais quasiment normale, personne ne critique. Parce qu'il n'y a pas que les circuits de distribution que vous évoquiez tout à l'heure. Parce qu'une fois que les vaccins seront arrivés là où il faudra vacciner, il va falloir que des gens prennent des seringues. Déjà, il paraît qu'il manque d'aiguilles. On a
le ministre a répondu à l'Assemblée nationale. Il a fait une déclaration en donnant le chiffre des aiguilles. J'ai le sentiment qu'on ne manquera pas de vaccins. La France en a commandé plus de 300 millions de doses à 6 fournisseurs différents. Il va y avoir une montée. Le sentiment, c'est qu'on manque de logistique et on manque d'un rassemblement des acteurs. Alors, de la vaccination.
Je vous cite le professeur Gaëtan Gavazzi, qui est gériatre au CHU de Grenoble. On a des milliers de doses dans les réfrigérateurs, mais pas assez de médecins et d'infirmières pour vacciner. Les agences régionales de santé ne se réveillent que maintenant pour préparer des listes de personnel volontaire chargé de faire des piqûres, parce qu'il va bien falloir quand même que l'on les pique, tous ces gens. Et qui sait qui va le faire? Des gens qui savent le faire. Mais ces gens qui savent le faire, ils sont où? Ils sont dans des hôpitaux, ils sont dans des cabinets médicaux. Pendant qu'ils vont faire ça, ils ne feront plus le reste. Enfin, comment tout ça va s'organiser? Ça n'a pas été pensé.
Oui, je suis d'accord avec vous. Ou plutôt, ça a été pensé et dépensé. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi ça heure par heure. D'ailleurs, je pense que je vais arrêter de le suivre parce que ça me donne pas mal de stress. Il y a une quinzaine de jours, on nous disait ce sont les médecins généralistes qui vont vacciner, c'est le cœur du dispositif. Et mardi, tout a changé. Mardi, il y a eu un message en boucle sur France Info à partir de 9h. Ce sont les grands centres de vaccination mis en place par l'État sur le conseil de McKinsey, d'ailleurs. Et Doctolib. Bon, alors on interviewe la présidente de la Haute Autorité de Santé, qui s'appelle Madame Le Gudelec. Le ministre dit d'ailleurs à l'Assemblée nationale, nous ne naviguons pas à vue, une stratégie a été définie par la Haute Autorité de Santé, qui est, je le rappelle, une autorité indépendante. Et que dit cette dame Le Gudelec? Elle dit, ah mais non, les médecins ne peuvent pas vacciner, parce que la conservation du vaccin ne le permet pas. Mais on nous a dit exactement le contraire il y a 15 jours. Et elle finit une interview que j'ai trouvée très mauvaise, personnellement, en disant « on aura vacciné 6 millions de personnes avant l'été ». Mais le ministre dit 14 millions. La haute autorité qui semble être au-dessus du ministre, je viens de vous lire la phrase, le ministre dit que c'est la haute autorité qui a défini la stratégie. Le ministre dit 14 millions, le Premier ministre dit 14 millions, le porte-parole du gouvernement dit 14 millions, donc c'est bien, là, ils sont d'accord entre eux. Et la présidente de la Haute Autorité dit 6 millions. Alors, je pense qu'elle a fait un lapsus, je pense qu'elle s'est trompée, mais cela crée une mauvaise impression. Et j'écoutais ça donc en voiture, j'arrive chez moi, la télévision était dans le salon, je vois M. Véran qui était à Tarbes le 9 janvier avec le Premier ministre. Et au moment où vraiment j'arrive dans mon salon, j'entends Olivier Véran qui dit « le but n'est pas d'aller le plus vite possible ». Mais je me suis pincé, je me suis dit, je dois avoir un trouble cognitif, je n'entends pas, j'ai un problème d'écoute, d'ouïe. Mais non, il l'a vraiment dit, ma femme m'a dit, oui, c'est ce qu'il vient de dire. Or, c'est pour ça que je parle de la drôle de guerre. Et c'est exactement ça. Je reviens à Bavresse, en 1940, les nazis ont envahi la Pologne, ils ont envahi la Norvège, et nous étions derrière la ligne Maginot. C'est que les épidémiologues, notamment celui de Montpellier, qui a un nom roumain, je ne l'ai pas mémorisé, nous dit dans deux mois et demi au plus tard, la souche anglaise sera partout sur notre territoire. Elle a conquis la Grande-Bretagne en 3 mois. Et la souche anglaise, vous le savez, sa contagiosité est de 50 à 70% supérieure à notre bon vieux coronavirus d'antan. Bon, ce qui veut dire que les gens vont tomber comme des mouches. C'est ça que ça veut dire. Et la chancelière Merkel a dit aux Allemands, nous allons être confinés au moins jusqu'à Pâques. Donc, vous voyez bien que c'est une course de vitesse. Et cette course de vitesse, mon sentiment est que nous sommes en train de la perdre.
Maxime, sur ces propos un peu pessimistes, mais parfaitement réalistes par contre, on fait une pause musicale, le temps passe très vite, hein, même à la radio. Vous avez fait le choix de Georges Brassens, je vous laisse annoncer le titre.
Parfaitement. Oui, vous avez compris que j'aimais Georges Brassens, et cette chanson, « Quand on est con », illustre la situation dans laquelle nous sommes.
Écoutez, c'est dit, écoutons Georges Brassens, « Quand on est con, on est con ».
Quand ils sont tout neufs, qu'ils sortent de l'œuf, du cocon, tous les jeunes blancs becs prennent les vieux mecs pour des cons. Quand ils sont devenus des têtes chenues, des grisons, tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons. Moi qui balance entre deux âges, je leur adresse à tous un message. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Les cons naissants, les cons innocents, les jeunes cons, qui ne le niaient pas, prenez les papas pour des cons. Vous les cons âgés, les cons usagés, les vieux cons, qui confessez-le, prenez les petits bleus pour des cons. Méditez l'impartial message d'un qui balance entre deux âges. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est con, on est con. Qu'on ait 20 ans, qu'on soit grand-père, quand on est con. Entre vous, plus de controverses, qu'on caduque ou qu'on débutant. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan. Petit con de la dernière averse, vieux con des neiges d'antan.
Je pense qu'elle illustrera aussi ce que vous direz tout à l'heure quand vous présenterez ce livre sur le... Moi, j'appelle ça l'abîme cognitif, et en fait, le titre du livre, c'est
l'apocalypse cognitif. Voilà, nous avons écouté Georges Brassens, le choix de Maxime Maury, « Quand on est con ». Vous avez compris que l'ami Maxime est assez remonté sur cette situation, face à cette situation qui est effectivement incompréhensible, parce qu'il est certainement plus compliqué d'élaborer un vaccin que de mettre en œuvre l'intendance qui permet de l'administrer. Or, c'était notre seul impératif de mettre en place cette intendance, et manifestement, nous n'y arrivons pas puisqu'il y a déficit de distribution, déficit de personnel. Alors, vous évoquiez tout à l'heure les médecins libéraux qui devaient être en première ligne. Alors, il semblerait qu'il y ait là une basse manœuvre politique ou haute manœuvre politique, je ne sais plus comment il faut le dire, puisque vous savez que les médecins généralistes, au moment de la grippe H1N, c'est très compliqué à dire.
Oui, H1N,
voilà, en 2008, avait été écarté C'était, voilà, c'est pas eux qui avaient vacciné, donc ils s'étaient plaints amèrement. Et là, il semblerait que le président ait voulu faire une bonne manière à ses médecins. Il aurait fait un choix de politique délibéré. C'est ce qu'au moins dit Claude Pigement, qui est l'ancien vice-président de l'Agence de médicaments, qui nous dit « Le choix des médecins libéraux a été un choix politiquement délibéré de la part de Macron. » De, je le cite hein, dans le texte, de cajoler les médecins pour la présidentielle de 2022. Mais c'est un choix qui coûte très cher aujourd'hui, puisqu'il y a d'abord pénurie de médecins, et ensuite il faut administrer ce vaccin dans des conditions de froid telles que ce n'est pas possible de le faire faire par tout le corps médical libéral de ville, par exemple. En campagne, il n'y a pas de toute façon suffisamment de médecins pour se livrer à ce genre de
Bon, une petite remarque désagréable et ensuite je vais vous faire 10 propositions, mais je ne vais peut-être pas pouvoir les dérouler, les 10, j'en prendrai 3 ou 4, je viens de les adresser. Comment ?
Nous avons le temps, Maxime, nous avons le temps.
Bon, je viens de les adresser à mes amis du Centre d'études et de prospectives stratégiques qui vont les publier. La remarque désagréable, c'est que M. Macron a tort de s'occuper sans arrêt des élections de 2022 parce que peut-être qu'elles n'auront jamais lieu. C'est-à-dire que si nous sommes cloués par le virus, comme est clouée actuellement l'Irlande, regardez la situation en Irlande, eh bien, les gens ne se déplaceront pas pour aller voter. Alors, elles auront peut-être lieu, mais enfin, nous risquons de connaître un véritable tsunami sanitaire et politique. Donc, la seule question, c'est Clémenceau, hein, je crois que Macron connaît Clémenceau, c'est Clémenceau, le père de la victoire, comment nous menons la victoire pour éradiquer le virus. C'est le seul sujet à l'ordre du jour. Alors, sur le froid, vous savez que le vaccin se conserve pendant une semaine en réfrigérateur. Et donc, les pharmacies ont des réfrigérateurs, les médecins ont des réfrigérateurs, les infirmiers ont des réfrigérateurs. Toute la question, c'est pour ça que je commençais tout à l'heure en disant, est-ce que les 100 centres de conservation du froid ont été installés ? Et je lis dans la presse que certains préfets annoncent sur leur territoire et ne le savent pas. J'ai lu ça, alors je vais citer Le Figaro. La source était sérieuse. Donc, la question, c'est comment organiser cette logistique. Je vais citer un brave lieutenant-colonel des pompiers qui disait, je crois que c'était dans le Figaro, voilà, le colonel Grégory Allion, il dit... Tous ceux qui ont compétence à intervenir dans la vaccination doivent, selon moi, être mobilisés. C'est le cas des militaires, mais aussi de tous les infirmiers libéraux, de la médecine libérale, des officines de pharmacie et des sapeurs-pompiers. Quand la phase de vaccination de masse débutera, on aura besoin de toutes ces forces pour agir vite et bien sous l'autorité du préfet. Alors, la question, c'est quand est-ce que la phase de vaccination de masse va débuter ? C'est la question.
Je peux vous livrer une expérience toute chaude. J'ai un père de 91 ans, donc qui a, vous l'imaginez, à cet âge-là, quelques faiblesses et puis aussi un passé médical. Nous avons ce matin avec mon épouse tenté de prendre un rendez-vous pour sa vaccination. Ça a été le parcours du combattant effroyable et nous avons réussi à avoir un rendez-vous, je crois, aux alentours de la mi-février. Et encore, bon, on ne sait pas si l'affaire…
Mais un rendez-vous où, alors ?
Alors, un rendez-vous dans un centre, dans Toulouse, du côté de Balma.
Dans un centre, c'est ça.
Ça a été très compliqué pour l'avoir. J'ai lu dans Le Monde que les Allemands n'étaient peut-être pas mieux lotis que nous sur certains plans, et pourtant, ils ont l'habitude de l'organisation, puisqu'ils passent des heures au téléphone. J'ai même lu 6 heures au téléphone avant de pouvoir avoir un interlocuteur et pouvoir prendre un rendez-vous, alors que chez nous, apparemment, ça se fait par Internet, en donnant quelques coordonnées, on arrive à avoir un créneau horaire, en espérant qu'il sera maintenu bien.
Mais Jacques, votre exemple est très inquiétant, parce que le Premier ministre a dit hier soir, lundi, nous commençons la vaccination des plus de 75 ans. Si ma mémoire est bonne, votre père a 92 ans, peut-être un peu plus, non ?
92, oui, quasiment.
Bon, 92 ans. Et là, ce que vous me dites, c'est, je n'ai pas de rendez-vous avant le 15 février. C'est ça que vous venez de dire.
C'est tout à fait ça.
Eh bien, vous voyez que ce gouvernement est le gouvernement de la com. Ce sont des effets d'annonce, c'est de la com, mais ça ne fonctionne pas.
Ben, c'est ce que je vous citais tout à l'heure, où on disait qu'on faisait de la com, mais que, je ne sais plus, c'était un pharmacien qui le disait, on fait de la com, mais ça ne fonctionne pas. Et c'est très grave parce que c'était relativement simple à mettre en place, surtout qu'on avait beaucoup de temps pour le mettre ensemble, vous l'avez rappelé tout à l'heure. On avait des mois pour se préparer à cela. Nous avons en France, et on va peut-être aborder cette question, mais on écoutera vos suggestions tout à l'heure, nous avons en France des gens qui savent faire, nous avons des préfets qui sont parfois intelligents et surtout bien formés, nous avons quelques militaires qui savent aussi organiser ce type d'opération sur une grande échelle, et nous allons chercher à grand renfort 2 millions des conseils de cabinets, souvent anglo-saxons, je n'ai rien contre eux, même j'ai été associé de l'un d'eux, donc je ne vais pas aujourd'hui les critiquer. Cela étant, il me semble que nous avons en interne suffisamment de compétences pour éviter d'aller chercher des cabinets qui vont prendre des sommes folles, alors que nous avons formé à l'ENA ou ailleurs, nous avons formé des gens parfaitement compétents, mais qui aujourd'hui sont obligés de passer sous les fourches caudines de ces cabinets, et ça fait plusieurs mandatures de président de la République, ça existe depuis Chirac, après on a eu Sarkozy, on a eu Hollande aussi, qui a abondamment fait appel à ce genre de structure. C'est extrêmement surprenant.
J'ai entendu parler de 100 millions d'euros, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est une fake news. Personnellement, je connais McKinsey parce qu'on les a eus à la Banque de France il y a 20 ans. Ce sont des gens qui vous vendent ce que vous voulez entendre. Hein, voilà. Donc en fait…
Oui, alors ce sont des consultants. Alors c'est très amusant parce que souvent les fonctionnaires sortent de la fonction publique pour aller dans ce type de cabinet. Celui qui conseille pour McKinsey, c'était Maël de Calan qui
est conseiller. Oui, on le connaît, c'est un ancien homme politique. Oui.
Voilà, c'est un ancien homme politique. Et puis un qui a fait quand même beaucoup parler de lui et qui continue à faire parler de lui, Pierre de Villiers, qui est consultant en stratégie aujourd'hui pour le groupe Boston Consulting, etc.
Oui. Absolument.
Donc, on est allé pantoufler, c'est bien, mais on ne comprend pas que l'on ne se serve pas de nos prétendues élites, elles le sont souvent administratives, pour aller faire appel au privé, c'est-à-dire qu'on paye deux fois pour le même service.
Alors, en citant Pierre de Villiers, vous me faites la transition, donc si vous le permettez, je vais extraire des 10 propositions que j'ai adressées à ce think tank, dont je suis un membre éminent, je vais en extraire 3 ou 4. La première… Le problème que nous avons est un problème de logistique. Il faut donc confier l'encadrement du ministère de la Santé à un général d'armée. Vous avez cité Pierre de Villiers. Ils ne le feront pas, évidemment, puisque M. Macron a peur du général de Villiers. Mais vous avez un général 5 étoiles qui est disponible. C'est le général Richard Lizurey. Il se trouve que j'ai écouté il y a 2 ans sa conférence à l'école de guerre, puisque j'appartiens à la gendarmerie nationale, c'est quelqu'un de remarquable, et en plus, c'est un grand diplomate, et c'est un vrai manager.
Et nous l'avons, eu à Toulouse, je pense, comme directeur régional.
Oui, absolument, il était à Toulouse.
Puisque j'ai fait des émissions de radio avec un certain nombre, avec le général Pidou, mais je crois que j'avais aussi rencontré Lizurey à l'époque, qui sont des gens, effectivement, qui ont de grandes capacités.
Alors, confions-lui la logistique. Monsieur Fischer est totalement inapte pour la logistique. Alors, le fait d'avoir nommé un monsieur vaccin, ça montre bien les errements dans lesquels nous sommes. Le vaccin, c'est une grande cause nationale. J'ai dit tout à l'heure, les taxis de la Marne, les camions qui montent vers Verdun, les soldats de l'an 2. Donc, monsieur Fischer, c'est un conseiller scientifique.
Monsieur Vaccin, qui d'ailleurs s'est fait débarquer quelques jours après pour aller chercher une bonne dame qui n'est absolument pas qu'une jeune énarque, Madame Buffet.
Oui, c'est ça, qu'on a ajouté pour la logistique.
Qui ne connaît rien en logistique, mais qui s'est retrouvée là parce que Monsieur Louis-Charles Viossat, c'était son nom, qui était arrivé en poste qu'à mi-octobre, bien tard bien sûr, et reparti très discrètement le 30 décembre quand on s'est aperçu que, pour différentes raisons sur lesquelles on ne reviendra pas, c'était pas de la situation. Donc, tout ça,
il y a déjà quelques officiers militaires de logistique qui sont arrivés au ministère. Confions vraiment ce ministère à des militaires ayant l'expérience de la guerre. Voilà. Et puis, M. Véran fera les conférences de presse. Bon, ça, c'est la première mesure à prendre. Car tout le problème est logistique. Des vaccins, on en aura tant qu'on en voudra. La France a pris 300 millions de doses en option dans les 6 fournisseurs différents. Le problème, c'est de distribuer. La deuxième proposition, c'est dès lors que nous avons les 100 centres de conservation, un dans chaque département, et encore une fois, je ne sais pas si nous les avons, confions la logistique vers les pharmaciens, vers les médecins, vers les infirmiers, aux régions et aux communes. Il y aura de l'argent à dépenser, mais elles le feront très bien, puisque, en fait, je ne sais pas, si par exemple, je ne sais pas si Albi a un centre aujourd'hui, je n'en sais rien, mais s'il y a un centre à l'hôpital qui se trouve à 1 km de l'endroit où je vous parle, il suffit d'avoir un réfrigérateur, il suffit que le pharmacien commande en début de semaine ou en fin de semaine pour la semaine suivante, et pareil, le médecin, les doses dont il a besoin, et il y aura un peu de dépenses, évidemment, de livraison, et on les livrera en flux tendu, ils conserveront le vaccin dans le réfrigérateur pendant une semaine. Et puis vous savez que le vaccin de Moderna, qui vient d'arriver, mais nous en avons commandé beaucoup moins que le vaccin de Pfizer, a des contraintes de conservation qui sont moins difficiles. La troisième suggestion, et j'aurais dû commencer par là, c'est que nous avons un fichier national qui est le fichier de l'assurance maladie où il y a tous les Français. Donc, il faut le restructurer par ordre d'âge décroissant. Il faut que tous ces logisticiens distributeurs du vaccin soient connectés et que les Français aillent s'inscrire en masse. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une pharmacie au bout de la rue, je vais m'inscrire, on prend mon inscription et on m'appelle par ordre d'âge décroissant. Cette idée a été exprimée pour la première fois par un jeune garçon dans la page Opinion du Figaro, et il disait « Il ne faut pas que le refus du vaccin freine la vaccination. » C'est-à-dire qu'il faut que chaque fois qu'il y a un vaccin disponible, ça descende à la personne au-dessous, en termes d'âge, ce qui suppose qu'il y ait ce fichier et que tout le monde, que tous les distributeurs, tous les vaccinateurs accèdent à ce fichier. Donc, ce n'est pas très difficile à faire. Mais encore faut-il avoir une vision d'ensemble. Voilà mes principales propositions. Et puis ensuite, l'exemplarité. Je crois qu'il faut qu'en février, Mme Bachelot, Mme Gouraud, M. Le Drian, qui ont plus de 70 ans, aillent se faire vacciner. Mais bon, nous avons déjà eu le pape, la reine d'Angleterre, le président des États-Unis, et Axel Kahn, qui malheureusement a dit à peu près la même chose que ce que je dis ce matin, c'est-à-dire que sur le plan stratégique, nous ne sommes pas du tout à la hauteur de l'enjeu.
Alors, que faut-il penser, selon vous, de certaines réticences au vaccin? J'ai entendu ce matin sur France Info qu'il y avait 42%, je crois, de personnes qui, il y a quelque temps, qui avaient manifesté le désir de se faire vacciner. Il semblerait aujourd'hui qu'elles soient 56%, puisque la tendance s'inverse, il y a un effet d'entraînement, vraisemblablement. Est-ce que vous, dirigeant, vous auriez rendu la vaccination obligatoire?
Alors, la réponse est non, parce que l'opposition, il y a un noyau dur d'un tiers d'opposants, et vous avez rappelé ensuite, il y a un marais, le premier groupe, c'est ceux qui veulent se faire vacciner, hein, mais il y a un marais important qui est attentiste, donc je pense qu'il n'était pas possible de la rendre obligatoire. En revanche, je vais nuancer en disant que pour les personnels de santé, ça devrait être obligatoire. Pour les personnels de santé, ça devrait être obligatoire. Bon, les médecins se font vacciner en masse de plus de 50 ans. Mais si les personnels de santé, les aides-soignants, les infirmières, etc., ne se font pas vacciner, lorsque dans 2 mois, le virus anglais aura complètement envahi notre territoire, nous risquons de perdre notre système de santé. Nos hôpitaux seront saturés et les soignants risquent de tomber comme des mouches. Donc, moi, je l'aurais rendu obligatoire pour les personnels de santé.
Mais pas pour les autres.
Pas pour les autres. Alors, on peut reprendre ensuite les…
Il y a quand même des gens, c'est très curieux. Moi, j'étais chez mon… On va parler de nos vies privées bientôt. J'étais chez ma dentiste hier, qui est une jeune femme d'une trentaine d'années, jeune dentiste brillante avec de très belles études. Je lui ai demandé, est-ce que vous êtes vaccinée? Elle m'a dit non et je ne me ferai pas vacciner de suite. J'attendrai au moins un an. Donc, c'est très curieux de voir la réaction de certaines personnes qui sont dans le milieu médical et qui ont une espèce de réticence face à ce vaccin.
Oui, mais il faudrait lui dire, est-ce que vous pensez que la France, dans un an, sera toujours comme aujourd'hui? Vous voyez, c'est-à-dire, est-ce que si nous sommes tous cloués chez nous par… L'épidémiologue de Montpellier, qui est quelqu'un de reconnu, c'est un maître de conférence à l'université, a dit, si le virus anglais prend possession du territoire, même un confinement strict n'empêchera pas que nos hôpitaux seront saturés et débordés. Bon. Et vous verrez que nous allons être confinés dans 15 jours, hein, j'en suis convaincu, mais le confinement ne sera pas strict, puisque M. Macron, comme vous l'avez noté, s'est fâché avec les forces de police, avec ses propos sur les contrôles aux faciès. Donc, voilà, donc cette dame, il faut lui dire, mais est-ce que vous pensez que dans un an, on sera toujours là, comme nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire relativement paisible, malgré la menace ? Bon, sur le fond, l'ARN messager est une technique qui a été inventée il y a 20 ans et qui a été expérimentée. En aucun cas, le messager de l'ARN ne peut modifier l'ADN, en aucun cas. Et surtout, le problème qu'on a avec ce vaccin, c'est que le messager, au bout de 6 mois, il est naze. C'est-à-dire qu'en fait, le signal immunitaire disparaît. On ne sait pas très bien, les scientifiques disent entre 3 et 9 mois. C'est ce qui montre que ce vaccin n'est pas dangereux. En revanche, ça accentue encore ce que je vous disais sur la nécessité d'une vaccination de masse. Parce que si dans 6 mois, les gens des EHPAD n'ont plus l'immunité, il va falloir les revacciner. Donc, en fait, c'est une machine de guerre qu'il faut que nous mettions en place. Nous devons faire la guerre et nous ne la faisons pas.
Il ne faudrait pas quand même qu'on invente le mouvement perpétuel, là, parce que…
Alors, il y aura d'autres vaccins qui arriveront, peut-être qu'il y aura, sans doute un progrès, mais pour le moment, ce que disent les scientifiques, c'est on ne sait pas, 3 à 9 mois, imaginez que ce soit 6 mois, ça veut dire qu'au moment où on aura fini de vacciner les personnes âgées, enfin, selon les déclarations du gouvernement, hein, et qui ont été contredites, je le répète, par la dame de la haute autorité, il faudra recommencer, oui, le mouvement perpétuel, oui, mais ça veut dire qu'il faut une véritable machine de guerre, quoi, c'est ça. Et je pense que quand le ministre dit le but n'est pas d'aller le plus vite possible, eh bien, j'ai l'impression que le ministre fait semblant de ne pas comprendre l'enjeu stratégique, parce que je ne peux pas imaginer qu'il ne le comprenne pas. Enfin, c'est...
Maxime, on fait une deuxième pause musicale ?
Ben, avec plaisir.
Voilà, alors je vais vous faire découvrir un groupe que je pense que vous ne connaissez pas, qui s'appelle les Goguettes en trio, mais à quatre. Vous voyez, c'est quand même un titre un peu particulier, une appellation un peu particulière. C'est un quatuor vocal français qui a été créé en 2013 et qui s'est un peu spécialisé dans les reprises parodiques et humoristiques de chansons de la variété française. Alors, c'est un groupe qui a connu un succès important, mais essentiellement sur les réseaux sociaux, pendant la période de confinement de 2020. C'est un groupe qui est composé, je crois qu'il y a un avocat dedans, il y a une docteure en musicologie, un claveciniste, un pianiste, ils sont quatre, hein, bien sûr, comme le nom l'indique. Ils jouent toujours ensemble, il y a des auteurs et des interprètes, et ils vont nous chanter une chanson qui va faire le lien avec mon propos liminaire qu'ils ont appelé HSBC. Donc, nous écoutons les Goguettes en trio, mais à quatre, et je vous les ferai entendre d'autres fois parce qu'il y a franchement des perles chez ces gens qui sont jeunes, dynamiques et très créatifs. Donc, ça s'appelle HSBC. Écoutons les Goguettes en trio, mais à quatre.
Déjà ma Rolex à l'âge de 4 ans, ma croissance dépassait les 5%. Dans la cour je refourguais dégoûté de contrebande. Au grand, je planquais mes magouilles, mais à 10 ans, je connaissais mon premier redressement. Aujourd'hui j'ai grandi, mais j'ai gardé mon âme d'enfant. Maintenant j'ai un compte à la HSBC. Maintenant j'ai un compte à la HSBC. Occupe-toi de tes oignons, t'occupe pas de mon pognon. Viens pas foutre ton nez dans mon fric. Viens pas foutre la merde à la HSBC. Viens pas foutre la merde à la HSBC. À Genève, moi je suis nourri, logé, blanchi. La brosse à dents dans ma valise. Il ne manque à personne, il est à moi. Je le mérite, je le planque, c'est mon droit. Je donne la charité, oui, mais à qui bon me semble. On va quand même parfiler tout ça à l'État, qui balance des allocs à tour de bras à tous ces demeurés qui déposent tout à la porte.
poste. Ils avaient qu'à être à la
HSBC.
Ils avaient qu'à être à la
HSBC.
Mais ils sont trop benets, ils croient Gad Elmaleh quand ils conseillent la LCL. Je m'en fous de tes services publics. Avec mon fric, je me fais soigner dans les meilleures cliniques. De toute façon, mourir, c'est devenu un truc de pauvre. Et puis, j'ai mon avion privé, alors les prix des billets de TGV, ça me passe en dessous. Je vais pas covoiturer, même avec Mohamed VI. À ce qu'on s'amuse à la
HSBC.
À ce qu'on s'amuse à la
HSBC.
Viens pas gâcher la fête, touche pas à ma cassette avec tes listings du Swiss Leaks. Tout le monde soutient la
HSBC. On est Charlie, on est HSBC.
Financiers prolétaires, on est tous solidaires. Que personne ne touche à notre fric. À ce qu'on s'amuse à la
HSBC.
Je voudrais revenir un instant sur l'économie.
Oui, alors.
Je voudrais revenir un instant sur l'économie, un bref instant pour raccorder avec Nicolas Bavre. Patrick Artus, qui est, on peut dire, le meilleur économiste français et qui est quelqu'un d'assez impavide, s'est mis en colère l'autre jour en disant si les vaccins restent dans les frigos, c'est criminel et nous n'aurons pas la croissance annoncée. Vous savez que les prévisions. La Banque de France dit 5% pour 2021, les prévisions vont entre 5 et 7%. Et Artus dit, nous aurons 2%. C'est pour ça que ce matin, notre émission est entièrement consacrée à la crise sanitaire. Si nous maîtrisons la crise sanitaire, nous pouvons avoir 5%. C'est ce que disait le gouverneur de la Banque de France hier. Et si nous ne la maîtrisons pas, nous pouvons avoir 2% versus moins 9% en 2020. Et avec derrière toutes les conséquences, et je pense aux conséquences financières.
Vous pensez que cette crise financière ne va pas affecter durablement les finances des pays ? Comment ça va se dérouler ? Parce que là, on ne voit pas la sortie, donc on va devoir continuer, le gouvernement français, mais les autres aussi, vont devoir continuer à mettre beaucoup de milliards pour essayer de tenir la tête hors de l'eau de nos économies, pour faire aussi que des gens qui l'ont interdit de travailler, comme les restaurateurs par exemple, il faut les payer, puisque s'ils ne travaillent pas, c'est pour protéger la santé des concitoyens. Donc il faut quand même que ces gens puissent continuer à vivre. La solidarité nationale doit s'exercer. Ça pourra tenir jusqu'à quand ? Jusqu'à quand on va faire marcher la planche à billets ? Jusqu'à quand les milliards vont pleuvoir ?
Alors, la planche à billets, elle peut marcher éternellement. La question,
oui,
c'est quelles sont les conséquences.
À un moment ou un autre, elle risque d'avoir quelques effets pervers, j'imagine.
Oui, oui, mais nous en avons parlé, l'inflation des actifs, l'augmentation du prix de l'immobilier, l'augmentation de la bourse, le creusement des inégalités. Vous soulignez au passage qu'en fait, il y a des secteurs entiers de notre économie qui n'ont plus aucune visibilité. Hôtels, restaurants, salles de spectacle, ils n'ont plus aucune visibilité. Et moi, ce que je lis, c'est que si les restaurants réouvrent en mars-avril, et en réalité, je n'en sais rien, parce que je ne sais pas quelle sera la situation sanitaire en mars-avril, eh bien, un tiers à la moitié d'entre eux pourraient disparaître. C'est ça les prévisions de sources professionnelles. Et donc, pour répondre à votre question, ça va forcément provoquer des chaînes de défaillance. J'avais cité, je crois, la dernière fois, Sfaköller, qui estime que les défaillances vont augmenter de 50% jusqu'en 2022, alors qu'actuellement, elles sont à un niveau très bas. Et derrière, ça provoquera un choc sur notre système bancaire, il n'y a aucun doute. Mais on va peut-être réserver ce sujet pour une prochaine émission, parce que…
Oui, tout à fait. Est-ce que, Maxime, vous en avez terminé dans la présentation des mesures ? Est-ce que vous n'avez… Parce que vous en aviez annoncé une dizaine.
Oui, il y en a une dizaine, mais je ne veux pas vous lasser. Je les ai écrites, vous les avez eues. Je ferai d'ailleurs un éditorial prochainement là-dessus. Alors, je veux croire que tout ça est dans la tête du gouvernement, que je n'ai pas inventé la poudre. Simplement, un, c'est pas clair, 2, il y a beaucoup de changements de pied. Et 3, on ne sait pas quand notre vaccination sera au rythme des objectifs qui sont annoncés, 14 millions avant l'été. Et encore une fois, aujourd'hui, nous sommes à 247 000 et nous avons vacciné environ 4 à 5 fois moins que les pays qui nous entourent. Israël nous donne un exemple extraordinaire. Et justement, c'est un pays qui a toujours été en guerre. Vous voyez, Israël nous montre qu'en quelques semaines, on peut protéger l'ensemble des personnes fragiles. C'est ce qu'ils ont réussi à faire.
Ils ont payé leur dose 3 fois plus que les autres parce qu'ils les ont commandés très tôt, mais bon.
Bon, mais ça, c'est autre chose. Alors là, j'ai aucune critique. Je pense que le fait d'avoir fait un consortium européen, là, vraiment, c'est bien. Et je ne dis pas qu'il faut que les collectivités aillent acheter des doses sur le marché mondial. Je ne dis pas ça. Je dis qu'il faut tendre la main aux collectivités pour qu'elles aident l'État à organiser la logistique de proximité.
Bien, écoutez, espérons que vous serez entendus, que d'autres aussi qui s'élèvent contre cette lenteur, contre cette cacophonie, ce flou, ces imprécisions, cette gestion de la pandémie totalement erratique, espérons que vous serez entendus, mais tout cela me semble un peu tardif. On ne peut que croiser les doigts. Nous sommes des modestes spectateurs, des spectateurs engagés, comme disait
engagés, oui, engagés.
Mais des spectateurs quand même. Et on essaye de dire les choses, mais nous constatons, et je le sens bien à votre ton et à vos propos, que vous êtes quand même passablement inquiet, mais surtout désabusé.
Oui, vous exprimez parfaitement mon état d'esprit et en colère.
Alors, essayons de regarder un peu ailleurs, ne soyons pas trop nombrilistes. Que se passe-t-il ailleurs dans le monde et beaucoup plus loin que chez nous? Et parlons peut-être en quelques mots de la Chine. La Chine qui a été à l'origine, alors on ne va pas les accuser, mais enfin bon, le virus est venu de chez eux, ils l'ont subi durement. Ils sont, semble-t-il, aujourd'hui complètement débarrassés du virus. Alors, il semblerait qu'il y ait des poches. Là, on a vu qu'il y avait 2 ou 3 poches, mais eux, ils ont des techniques beaucoup plus radicales. Ils ne se posent pas la question de savoir si les gens vont accepter ou refuser le confinement. On n'a pas le choix chez eux. Ce qui fait que l'économie chinoise aujourd'hui, certains disent qu'elle va reconnaître un rebond de l'ordre de 8% en 2021, ce qui est quand même assez remarquable. Et vous savez que la Chine a un statut de pays émergent, ce qui économiquement sur la scène internationale signifie quelque chose. Elle va perdre vraisemblablement ce statut, ça ne l'amuse pas trop d'ailleurs. Elle va perdre ce statut pour endosser celui de pays développé. Donc, elle aura, ce qui veut dire qu'elle aura franchi le cap de la crise finalement sans trop d'encombre et qu'elle est le seul pays du G20 qui pourra afficher une performance pareille. La Chine se retrouve aujourd'hui en position d'être la locomotive de l'économie mondiale et elle devrait se relever totalement du Covid, parce qu'elle l'a quand même subi, elle devrait s'en relever totalement au deuxième semestre 2021. Alors, un des stratèges de la banque américaine Goldman Sachs qualifie la période actuelle de phénomène chinois et offre aux investisseurs, et je le cite, une occasion qui ne se présente pas 2 fois dans une génération. Ce qui veut dire que le PIB de la Chine va rattraper celui des États-Unis à peu près dans les années 28-29. C'est ce que laissent augurer les perspectives économiques. Remarquons qu'elle a rattrapé son retard avec.
Vous voulez dire par habitant, par habitant, voilà. Parce que oui. Le PIB chinois a dépassé le PIB américain en 2017.
Voilà, mais quand elle a adhéré à l'OMC en 2001, son PIB était environ de 7 fois inférieur à celui des États-Unis.
Oui,
et
oui, bien sûr.
Il a plus que décuplé pendant que les États-Unis ne faisaient que doubler. Et apparemment, le phénomène ne s'arrête pas. Xi Jinping a fixé un objectif, parce que là, c'est très militaire pour le coup chez eux, hein, ça marche le petit doigt sur la couture du pantalon. Il a fixé une croissance annuelle qui devrait être comprise entre 4,5% et 5%, et encore, ce calcul-là ne comprend pas toute l'économie de Hong Kong, puisque si on inclut cette région, et si on l'intègre à la Chine continentale, le PIB national, à ce moment-là, pourrait, dans les années 30-35, avoisiner celui des États-Unis et du Japon réunis. C'est absolument colossal. Alors, ces gens ont établi des priorités qualitatives. Ils ont fait comme vous. Vous annonciez 10 mesures, ils en ont 8. Renforcement des capacités stratégiques nationales. Donc, ça, c'est peut-être un peu inquiétant dans cette région, parce qu'on sait que la Chine a quand même des appétits en termes de reconquête, et notamment de Taïwan, hein, et sur certaines autres îles, notamment japonaises, le contrôle des chaînes d'approvisionnement, ne plus dépendre des États-Unis dans certains secteurs stratégiques, et notamment celui des semi-conducteurs, qui est apparemment une obsession des responsables politiques chinois qui veulent reprendre la main là-dessus, accroître l'augmentation de la demande intérieure, puisqu'aujourd'hui, une bonne partie de leur croissance repose sur les exportations. Alors, c'est une force, mais actuellement, c'est un peu une faiblesse aussi, puisqu'avec le Covid, l'Occident n'a plus trop les moyens d'acheter. Et ce qui est certain, c'est que si le monde se portait mieux, s'il n'y avait pas le Covid, la Chine se trouverait encore plus renforcée qu'elle ne l'est. Alors ensuite, ils vont surfer quand même un grand problème qui est les disparités chez eux, puisque il semblerait que 600 millions de Chinois, alors là on perd un peu avec nos 70 millions, on est un peu perdu, 600 millions de Chinois vivraient avec moins de 1000 yuan par mois, et le yuan c'est à peu près 126 euros. Hein. Donc le grand soir de la rétribution, de redistribution sociale et fiscale apparemment n'est pas pour demain. Mais la Chine travaille quand même à réduire ces inégalités, notamment par le développement des infrastructures publiques afin de stimuler la demande, et surtout on équipe le pays qui aujourd'hui n'est plus qu'un vaste chantier, notamment dans ces zones les plus reculées, alors autoroutes, voies ferrées, tours d'habitation, désenclavement de l'ouest du pays, pour essayer de combattre ce qui est quand même la grande pauvreté rurale. Et a priori, ça marche, et on se dit que d'ici une dizaine d'années, les disparités entre les régions auraient diminué. Alors, c'est un désenclavement qui est géographique, je viens de le dire, mais qui est aussi sectoriel, puisque la Chine va mettre l'accélérateur sur la croissance dans les services, qui devrait reprendre l'ascendant dans la reprise économique, et il voudrait que cette économie de services dépasse l'industrie manufacturière. Donc on s'attend à ce qu'en 2021, la moitié de la croissance provienne des services. Alors c'est peut-être plus facile chez eux que chez nous, puisqu'il y a le parti communiste chinois qui tient tout, qui a la main sur absolument tout de A à Z dans ce pays, et qui est en train de procéder, on en a un peu parlé, à la reprise en main des géants de la tech, hein, vous le savez, notamment Alibaba. Le PDG d'Alibaba, M. Ma, je crois qu'il s'appelle Jack Ma, a complètement disparu parce que je crois qu'il semblerait qu'il n'ait pas trop voulu jouer le jeu, mais toutes les autres grandes entreprises chinoises aujourd'hui sont en train d'être reprises en main par le Parti communiste, de manière à ce qu'il ne puisse pas opposer à ce parti une force par trop importante qui pourrait contrecarrer l'avancée du pays dans le sens où le souhaite Xi Jinping. Voilà, donc un pays qui va compter. Nous allons nous trouver peut-être un peu marginalisés par des croissances pareilles, par une machine économique de cette puissance. Alors la question est peut-être de se poser la question, de savoir s'il faut abandonner la démocratie au profit, et je vous la pose, Maxime, est-ce que une société démocratique et policée comme la nôtre n'a aucune chance face à ce bulldozer de la croissance mondiale où tout le monde marche au doigt et à l'œil, parce que sinon, c'est la prison, c'est les exécutions, c'est un manque complet de démocratie. Autrement dit, est-ce que dans l'avenir, la démocratie permettra de vivre à un bon niveau, ou est-ce qu'il faudra se tourner vers des pays qui ont une vision beaucoup plus, privative de liberté, et où tout le monde doit marcher au doigt et à l'œil? Est-ce que c'est une perspective que vous pouvez envisager, vous, l'économiste?
Alors, une petite remarque d'abord, avec une information que vous avez sans doute aperçue et que vous n'avez pas mentionnée, la Chine prétend interdire une mission d'enquête de l'Organisation mondiale de la santé sur l'origine du virus.
Ils y sont pour. L'OMS est présente là-bas, mais qu'est-ce qu'elle va arriver à faire?
Mais moi, j'ai compris qu'ils refusaient cette enquête.
Je crois qu'ils sont arrivés sur place, mais le fait d'arriver sur place ne veut pas dire pour autant qu'on va leur ouvrir les portes des laboratoires ou de certaines…
Voilà, parce que On sait avec une quasi-certitude que le virus est passé par le laboratoire de Wuhan. Je ne dis pas que c'est un virus artificiel, hein, je ne dis pas ça, mais on sait qu'il est passé par là. Donc, je suis incapable de dire, je ne sais pas, mais il y a vraiment une interpellation. Bon, oui, la Chine ressort comme grand vainqueur de cette crise et du coronavirus qu'elle nous a offert. Quant à votre question, vous savez, moi, mon point de vue est simple, c'est que les événements effrayants auxquels nous venons d'assister, avec le sang qui a coulé dans le Congrès des États-Unis, les événements du Brexit qui sont des événements absurdes, et vous allez voir comment la Grande-Bretagne va souffrir dans les mois qui viennent, et la crise des Gilets jaunes que nous avons connue en France, tout ça, c'est un seul et même événement. C'est la montée du populisme et je crois en effet que les démocraties sont menacées. Et d'ailleurs, nous n'en avons absolument pas conscience, hein, collectivement.
C'est un peu la conclusion à laquelle on est arrivé hier au cours de l'émission de commentaires politiques. Ça va mieux que vous entendrez samedi à 11h. C'est un peu effectivement cette conclusion. Maxime, un mot sur l'économie en Occitanie, Airbus peut-être?
Alors, juste très rapidement, pour revenir au début, oui, c'est ça, je l'ai dit, hein, Artus nous dit, attention, si on ne maîtrise pas la crise sanitaire, on aura 2% et pas 5%. Oui, je l'ai dit. Sur l'Occitanie, écoutez, juste un chiffre. Airbus Industrie a livré un tiers d'avions en moins par rapport à l'année dernière. Et donc, ce tiers d'activité en moins vous donne la mesure de l'impact sur l'économie de l'Occitanie, puisque, ou en tout cas de l'aire urbaine de Toulouse, puisque vous savez que au-delà des 50 000, 40 000 emplois de l'aéronautique, vous avez deux ou trois emplois indirects, et donc vous voyez l'impact que ça peut avoir.
Rubrique conseil entre guillemets culturel. Alors moi, je vais vous conseiller la lecture d'un livre qui vient de sortir et que je viens de commencer. Donc, j'en suis au tout début et je vous en rendrai peut-être compte plus complètement une autre fois. Mais il s'appelle « L'apocalypse cognitive ». Maxime, vous l'avez évoqué tout à l'heure. C'est publié au PUF, les presses universitaires de France. Pour ceux qui ne connaissent pas Gérald Bronner, s'il en reste, eh bien sachez qu'il est professeur de sociologie à l'Université de Paris, membre de l'Académie des technologies et de l'Académie nationale des médecines. Il a publié nombre d'ouvrages, dont un qui avait frappé les esprits à l'époque, c'est en 2013, et ça s'appelait « La démocratie des crédules ». Également un dernier en 2020 qui était le cabinet de curiosité sociale qui est absolument délicieux à lire. Alors dans cette apocalypse cognitive, que nous dit Gérald Bronner, ben, je ne vais pas vous donner ses conclusions puisque j'en suis au début, mais je peux vous donner au moins son présupposé de départ. Il nous dit, il y a dans notre civilisation un temps de cerveau disponible qui n'a jamais été aussi important. À côté de ça, il leur rapproche d'autre chose qui est ceci. Il nous dit, il y a une masse cyclopéenne, je le cite, et inédite dans l'histoire de l'humanité, des informations disponibles. Et d'autre part, il faut considérer le fait que chacun peut verser sa propre représentation du monde dans cet océan. Donc, ça veut dire que tout le monde aujourd'hui a la possibilité de faire connaître son point de vue sur tout. Et donc sa question, et il va l'évoquer dans le livre, c'est de se dire qui va l'emporter dans cette lutte finale. Est-ce que ça va être des gens qui vont avoir des opinions structurées, raisonnées, factuelles, ou est-ce que ce sont des gens qui seront des complotistes, parce qu'il parle, il évoque ce terme, Maxime. Est-ce que ce temps de cerveau libéré, qu'est-ce que nous allons en faire? Qu'est-ce que notre civilisation va en faire? Est-ce que ce n'est pas ça qui va déterminer l'avenir de l'humanité? Voilà, c'est son propos. Et moi, je rajouterai peut-être, mais il l'évoque éventuellement, ça, je vous dirai ça dans quelques temps, quand je serai parvenu au bout du livre, est-ce qu'il parle de la capacité du cerveau? Est-ce que la capacité de nos cerveaux aujourd'hui est à même de pouvoir appréhender le monde tel qu'il est, appréhender ses difficultés, appréhender ses menaces, appréhender ses opportunités? Je ne sais pas, mais voilà, Gérald Bronner, Apocalypse cognitive aux presses universitaires de France. Le débat est ouvert et puis dans quelques temps, je vous ferai part certainement des conclusions de Gérald Bronner sur cette question. Que va-t-on faire de notre cerveau, du temps qu'il a pu se dégager. Est-ce qu'il sera utilisé utilement pour aller peut-être plus loin dans l'aventure humaine, ou est-ce que nous allons tomber dans des errements complotistes ou autres qui feront que peut-être cette aventure s'arrêtera brutalement ou se délitera progressivement? Ça s'appelle l'effondrement. C'est une notion chère à Maxime et à moi-même. Enfin, chère, pas vraiment.
Non, pas chère.
Fait partie de nos préoccupations quotidiennes.
Oui, moi j'ai entendu l'interview de Gérard Bronner sur France Culture mardi, après avoir entendu le lapsus de la présidente de la Haute Autorité de Santé. La raison chancelle partout, la raison est attaquée partout, la raison n'a plus le droit de citer d'ailleurs, c'est ce que nous dit Yasmina Reza, qui est très à la mode. Elle nous explique la raison, non, on ne fait pas des personnages avec la raison, c'est la citation de René Char que je citais tout à l'heure, l'essentiel, nous sommes en permanence détournés de l'essentiel. Voilà. Et avec en même temps un effondrement moral, et j'oserais dire de la morale, des valeurs, qui fait que plus rien n'a de sens et que plus rien n'est fédéré. Voilà, donc effectivement, j'adhère à l'inquiétude de Gérard Bronner.
Voilà, et nous verrons comment il la traite dans ce livre, qui est un livre un peu épais et docte comme il se doit, et donc dans quelques temps, nous serons peut-être amenés à revenir sur ces conclusions. Voilà, Maxime, nous sommes presque au bout de notre émission et n'y sera lorsque je vous aurai dit que lundi, au cours de mon émission Cap, qui sera mise en ligne plus tard, parce que avec la pandémie, avec un couvre-feu à 18h, c'est un peu compliqué de travailler. Je recevrai le chairman du Parti démocrate américain de la région. C'est que les partis politiques américains sont très structurés, donc il y a le chairman du Parti démocrate et je le recevrai avec ses adjoints pour parler des élections. Je les avais reçues avant la votation, comme disent nos amis canadiens ou suisses. Ils espéraient. Aujourd'hui, ils ont été entendus par les électeurs américains. Ils vont nous dire un peu quelle est leur vision de l'arrivée de M. Biden et de sa vice-présidente, Kamala Harris. Et ils nous diront qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils espèrent et comment, selon eux, tout cela va pouvoir se dérouler dans une atmosphère plus que troublée. Vous le savez, vous l'avez vu, vous l'avez entendu, et Maxime l'a évoqué tout à l'heure.
Voilà. Alors, sans chercher à avoir le mot de la fin, moi, je souhaite vraiment que le Congrès des États-Unis votera la destitution de Trump, car Trump est l'illustration même de cette apocalypse cognitive, c'est-à-dire le mensonge permanent, la création d'un monde parallèle qui n'est pas le monde de la raison, et donc j'espère qu'il sera destitué.
Et cette destitution aussi, notre avantage institutionnel, c'est qu'il ne pourrait plus jamais se représenter à une élection. Voilà, c'était Economica, l'émission de Maxime Maury et de Jacques Lavergne. Nous remercions par anticipation Yanis Boudin qui montera cette émission et vous en retrouverez bien évidemment le podcast ainsi que tous les autres podcasts sur le site d'Esprit Occitanie. Et nous vous donnons rendez-vous le vendredi en 15 pour une nouvelle émission d'Economica. Belle journée à toutes et à tous. Au revoir, Maxime.
Au revoir. À bientôt.